Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. Nous voici à nouveau ensemble dans nos habituelles lectures en liberté pour la suite du roman de Joseph Delteil sur le fleuve Amour. Un coup de feu sur un baiser. Boris frappa à la porte de la chambre avec son poing ganté. Il entra. Nicolas et Elena étaient encore couchés. Boris tourna le bouton électrique aussitôt cette lumière charnelle, issue des frottements d'amour de corps réfractaires, se coula dans le lit le long d'Elena. Hé ! Dit gaiement Boris. Faudrait-il que je vous donne un coup de main ? Il était en uniforme de gala, drap noir et coupe anglaise, sobre bouton d'écaille. Depuis que l'armée bolchevique avait pris ses quartiers dans la ville de Spar, officiers et hommes de troupes affectaient une tenue nette. Le logement dans les maisons bourgeoises prédisposait aux parures correctes et aux idées droites. Et les soldats fraternisaient volontiers avec les artisans et les hommes de robe, pourvu qu'à défaut de convictions sociales, ils fussent pourvus de belles filles accessibles au raisonnement. Elena s'attardait dans les draps formels. Mais Boris, de sa badine, montra en silence la pendule. C'était une simple badine de jonc, comme s'en aggravent les sportsmen d'Epson sur les gravures anglaises. Avec 1000 milliardises, l'aiguille de la pendule marquait 3 heures du matin. Pendant qu'Elena et Nicolas s'habillaient, Boris s'assit devant une petite table ronde à pied de bronze, simulant des cornes de bouc. Une serviette de cuir de Russie était posée dessus, en équerre. Il se mit à en vérifier le contenu. Les sauf-conduits étaient en règle, cachetés du large tampon à encre rouge du général Broukilomitch. Les faux ordres de mission montraient la signature en imitation du commissaire Ouliapine. Des certificats, des documents diplomatiques s'ornaient de formules alambiquées conçues en style tsariste. Le « nous au nom du peuple de toutes les Russies » remplaçant le rituel « Nous, tsars de toutes les Russies ». Allons, Elena n'avait rien oublié. Elle s'habillait, Elena, en essayant de retenir dans ses yeux des larmes trop lourdes pour ses fragiles paupières à cils minces. Pourtant, ce projet de désertion avait d'abord éveillé en elle des forces et des ruses obscures, d'origine familiale, tapies à l'ombre de son âme de dactylographe-major du général Broukilomitch. Quand Boris et Nicolas lui avaient avoué leur dessein de quitter l'armée bolchevique, elle avait d'elle-même, après l'obligatoire crise de larmes, offert son aide attendrissante. C'est elle qui, subrepticement, avait apposé sur les parchemins et les papiers d'imprimerie les sceaux et cachets du général. Elle, qui s'était procurée aux fins de contrefaçon des spécimens de la signature d'Ouliapine. Elle, enfin, qui avait posé sur la petite table ronde à pieds cornus la serviette de cuir de Russie. Mais maintenant, son cœur de femme reprenait sa fragilité essentielle, un moment surmonté sous l'influence d'astres militaires et de mâles combinaisons. Et chaudement, fémininement, elle pleurait, tout en passant un jupon de batiste persane brodé à la main par quelques femmes en turban octogonal à proximité du tombeau du poète Saadi. Boris poursuivait l'examen de la serviette. Il dépliait, avec soin, les ordres d'arrestation et les ordres d'exécution en blanc, déjà pourvus de toutes les signatures et visas réglementaires. Une ivresse âcre l'envahissait, une odeur de sang dans les narines. Devant lui, une glace ovale à cadre de lac faisait autour d'elle des propositions. Boris, pensif, la regardait sans voir. Brusquement, il vit un jeune homme rose en manche de chemise embrasser une Helena sérieuse. Car les femmes se font instantanément sérieuses devant le baiser comme devant l'autel. Mi-vêtu d'un corselet crème, d'un soutien-gorge couleur de gorge et de bas de soie fleur de pêcher à contrefort en relief. Un peu de chaleur lui mordit les tempes. Puis il se pencha avidement sur l'ordre d'exécution. Bien qu'Helena fût leur maîtresse commune, l'un et l'autre parfois ne laissaient pas de s'attraper à quelque antique jalousie. Helena devait les accompagner jusqu'au rempart de Spar. Ils sortirent de la maison basse, à toit circonflexe. Il était maintenant 4 heures. Ils suivaient la rue Catherine. Une clarté avare suintait des interstices du ciel. Des étables grasses venait une odeur de lait pourri et de crottes de mouton. Quelques jardinets clos de murs de briques élaboraient des feuillages obscurs mais tendres. Par endroits, des chiens galeux, rassemblés autour d'une carcasse de veau, avaient l'air de sorciers livides, confectionnant des nourritures magiques. L'un d'eux lança un aboi militaire. Quelque part, une fontaine coulait. Dans les coins, on voyait des sensuelles taches de neige, comme un bout de peau de vierge. Devant les poissonneries, des tas de saumons frétillaient au clair de lune, et des mollusques et des crustacés, le nez dans les algues, pâturaient en des poses avachies. Tous les 100 mètres, une tente s'élevait contre le mur, et un fantassin rouge, couché de son long et ronflant, montait une garde imaginaire, le fusil entre les jambes, ou bien se livrait à des caresses éliminatoires auprès de quelques filles en chaleur qui palpaient sa baïonnette nue. Au carrefour de la rue Stouliapine, ils croisèrent une patrouille de 4 hommes et un caporal. Le caporal commanda « Halte !» et s'avança. Il titubait fort agréablement, et son haleine parfumait l'ombre lactée d'une odeur d'alcool de bois. Il tira de sa capote roide une vieille lanterne électrique, et longtemps il essaya d'en tirer quelques clartés. Le progrès se montra sourd à l'appel de ses doigts, manifesté sous la forme de pressions et de tapes appliquées en série contre l'appareil. Le caporal, à bout d'arguments, se mit à jurer dans un allemand populaire. Aussitôt, Helena reconnut le caporal Stambuskiski, des grenadiers polonais. Elle s'approcha de lui et, en manière de laisser passer, elle lui fourra sous le nez toute sa charmante figure où se marquait en effet à la lumière de quelques étoiles une sorte d'écriture cunéiforme, susceptible de traduction de bon augure. C'est du moins ainsi que l'interpréta le caporal. Il salua Helena d'un sobriquet charnel tout en lui chatouillant le menton. Puis il remit la lanterne ombrageuse dans sa poche et essaya tout en titubant de reformer l'escouade. Il s'éloigna tout en riant, en formulant sur la conduite générale d'Helena des appréciations dénuées d'élégance, sinon de galanterie. Peu à peu, le petit jour blêmissait. Un maraîcher chinois parut au détour d'une rue portant sur ses maigres épaules de longues balances dont l'un des plateaux débordait de potirons et l'autre de topinambours. Il marchait sur les talons en étendant les mains pour l'équilibre et bientôt il se mit à pousser avec conviction sur le ton le plus mélancolique de tendres gémissements destinés à vanter ces tendres légumes. Parfois un officier nocturne passait au galop d'un cheval silencieux, alors Elena s'appuyait davantage contre Nicolas. À la porte d'Ousque veillait un peloton de dragons de l'Oural. Devant le porche, un long homme montait la garde, un fusil à la main droite et une bougie dans la main gauche. Le sous-officier se leva en bâillant et prit la bougie que lui tendait la molle sentinelle. Et par distraction, il en frotta ses yeux pleins de sommeil, et la bougie s'éteignit au milieu d'un jurement sensationnel et de sourcils brûlés. Le poste courut aux armes et s'attroupa dans le brouhaha et l'obscurité. Les trois fugitifs franchirent la poterne. Ils étaient hors de la ville. Le moment de la séparation était venu. Une dernière fois, Elena supplia qu'on l'emmenât. Mais leur plan et l'état de leur cœur ne le permettaient pas. Alors elle se mit à sangloter, et cela raviva le décor un peu hâve. Au corps de garde proche, on entendait des pas de soldats en bottes et le sourd hennissement de chevaux qu'on sanglait à la hâte, et le sous-officier qui jurait contre les bougies de la République des Soviets. Une sentinelle juchée sur la terrasse des remparts allait et venait. Boris embrassa brusquement Elena, sans mot dire, et prit les devants sur la route. Il sentait sa gorge s'attendrir. Il n'aimait pas ces scènes d'adieu qui sentent la jaunisse et les larmes rancies. Mais Nicolas et Elena n'en finissaient pas dans leurs baisers. La dactylographe les avait sonores. Peu à peu, le silence revenait. Le sous-officier s'était tu, le jour croissait et l'horizon pâlissait comme un sein qu'on dévoile. Une grenouille unique coassa dans les fossés flétris. Là-haut, sur le rempart, la sentinelle s'arrêta, et l'on entendit interpeller le sous-officier. Puis, elle s'immobilisa, et on voyait vaguement son profil attendrissant contre le ciel. Dans le silence absolu, on n'entendait que les baisers d'Elena, sonores comme des castagnettes. Là-haut, la sentinelle s'en formalisa. Elle mit en joue ses baisers au hasard et fit feu. Elena tomba. Dans l'ombre, Nicolas se pencha sur elle et lui toucha le front. Mais il retira vivement sa main toute poisseuse de sang. Une peur le prit et il s'enfuit à toutes jambes vers Boris, vers Shanghai.
Vire au mauve, penser ou passer autre chose vaudrait mieux. Fuir le bonheur de peur qui ne se sauve, se dire qu'il y a over the rainbow, toujours plus haut le soleil above, radieux. Crois en Dieu, crois en Dieu, même quand tout nous semble odieux. À sang et à feu. Fuir le bonheur de peur qui ne se sauve, comme une petite souris dans un coin d'alcôve, apercevoir le bout de sa queue rose, ses yeux fiévreux. Fuir le bonheur de peur qui ne se sauve, se dire qu'il y a over the rainbow, toujours plus haut le soleil above, radieux. Crois aux cieux, crois aux dieux, même quand tout nous semble odieux. Que notre cœur est mis à sang et à feu. sauve, avoir parfois envie de crier sauve. Qui peut savoir jusqu'au fond des choses est malheureux. Fuir le bonheur de peur qui ne se sauve, se dire qu'il y a over the rainbow, toujours plus haut le soleil above radieux. Aux yeux, croire en Dieu, même quand tout nous semble odieux. Que notre cœur est mis à sang et à feu. Fuir le bonheur de peur qu'il se sauve. Dis-moi que tu m'aimes encore si tu l'oses. J'aimerais que tu trouves autre chose de mieux. Fuir le bonheur de peur qu'il se sauve. Se over the rainbow, toujours plus haut le soleil above radieux.
Lecture en liberté, Denis Flageul.
Joseph Delteil, sur le fleuve Amour. Le rameur aux bagues. Par la baie en losange jaune, on apercevait Shanghai la jaune avec son port à jonques et à femmes. Ludmila Androff était assise dans un sofa de soie de la province de Sounam, où des artistes agricoles élèvent les vers dans des mûriers peints afin qu'ils filent des soies de couleur. Sur une table devant elle, une douzaine de vers étaient disposés par ordre de grandeur. Le consul américain, de beaux cheveux blonds bouclés sur ses tempes cramoisies, contait l'histoire de sa vie de marin. Parfois, aux endroits pathétiques, il s'interrompait pour embrasser Ludmila sur les yeux ou sur les seins. De l'autre côté de la salle, Boris et Nicolas s'absorbaient dans la lecture des journaux de Moscou et de Shanghai. De temps en temps, l'un d'eux levait une figure pâle d'entre les caractères d'imprimerie et buvait longuement du curaçao double. Le gérant du bar souriait officiellement. Le consul américain continua. Le 18 juin 1892, la Clorinde, longeant le fort Sulip, alla s'ancrer dans la baie des Caracas. Une barque à rames se balançait au milieu du port. Aussitôt, elle nagea vers nous à contre-vent et se tint à proximité. On voyait le rameur plonger sa main droite dans l'eau et s'asperger les joues. C'était un jeune homme imberbe, le front blanc, le torse rond, les bagues aux doigts. Je passai le commandement au second James Marshire et je descendis l'échelle. Mais comme je sautais dans ma yole, la barque à rames accosta et le beau jeune homme m'offrit ses services. Il ramait à merveille et nous approchâmes bientôt du quai des Anglais. Soudain, il abandonna les avirons et se pencha de mon côté sur le tollet, et dans l'échancrure du col marin, je vis les deux seins. Un marchand de quinquina glapissait à mesure dans la ville, un marchandage euphonique. Alors elle me regarda en souriant, et son visage, couvert d'une pudique roseur, se rapprocha du mien. Elle m'embrassa sans un mot. Sa bouche avait un goût d'aventure et ses mains étaient grasses à point. Mais presque aussitôt, elle s'esquiva, reprit les rames et virant sous le quai, elle nagea parallèlement au rivage vers la villa. La maison était construite sous un bosquet de lataniers à quelques milles de Caracas. Nous y fûmes accueillis par un ramage de perruches et de tourterelles. Un chien muet de race missite gambadait sur nos talons. Nous entrâmes. Sur le seuil, un grand mulâtre me salua très bas en m'appelant ostensiblement capitaine. Il avait une excroissance sur le cou et un accent de la Nouvelle-Angleterre. Il me sembla qu'il boitait, du moins par instant. Tout le jour, il rôda autour de nous. Je le voyais par les vitres ratisser le sable dans le jardin ou couper une palme. Et de temps en temps, il se tournait vers la mer et regardait longtemps la Clorinde. Au moment de rejoindre le bord, j'hésitais. Le soir venait. L'atmosphère se faisait plus lourde, cette atmosphère de Caracas, saturée de souvenirs délétères et de souffles malsains. Mais déjà, le mulâtre détachait la barque et m'attendait. Je partis. Je me sentis les bras faibles et l'embarcation n'avançait point. Ou peut-être avais-je l'âme lourde d'amour. Brusquement, je sentis que je ne pourrais jamais atteindre la Clorinde. Je fermai les yeux. La barque se balança sur les vagues tendres. Je revis en moi le beau mulâtre ratissant les allées roses, et sans motif, je me pris à le haïr. Une pensée ignoble me vint. Je repris les rames et revins vers la rive. J'attachai la barque, je gravis la berge. Le jardin était désert, la porte de la villa ouverte. Toutes les perruches s'étaient tues. Je crois que mon cœur ne battait pas plus fort, mais une sorte de torpeur pesait sur mes poumons. Dans la chambre, l'accouplement monstrueux m'apparut, ses muscles noirs appliqués sans art contre cette chair trop blanche dont mes mains gardaient la forme. Le mulâtre était déjà debout, mon sabre entra avec une étrange aisance. Je sentais la lame percer presque d'elle-même, la peau, le tissu charnu, le cœur. Il tomba aussitôt, je n'eusse pas cru qu'un homme aussi noir eût du sang aussi rouge. Très vite, je sortis en fermant la porte, je tournai la clé et la jetai dans le jardin. Je fermai les fenêtres et les barricadai de l'extérieur avec des planches. Dans la cour, je saignai les quatre perruches et les quatre tourterelles. Je pris le chien muet par la queue et le jetai à la mer. Maintenant, les rames allaient toutes seules. J'atteignis en un instant la Clorinde. J'appareillai aussitôt et nous partîmes dans la nuit. Depuis, Caracas m'a souvent rendu visite. Cette femme cloîtrée dans cette maison m'a suivi autour du monde. Souvent, je la surprends dans ma cervelle qui épie un sabre rouge. La nuit, elle vient se couler dans ma couche. Les jours d'équinoxe, elle parle à voix plus haute. Le temps passe. Mais elle reste une jeune femme. Parfois seulement, elle s'accoutre d'une vareuse de mer et je revois le jeune homme qui ramait sur la baie avec des bagues aux doigts. Est-elle morte dans cette maison, dans ce lit? J'ai voulu le savoir. Je suis revenu à Caracas pour questionner les tourterelles au col tordu. La villa était close. J'ai escaladé le mur. Il n'y avait plus de lit dans la chambre. Est-elle morte? Je l'ai cherchée à San Francisco, à Yokohama, à Barcelone, à Arkhangelsk. Et chaque semaine, j'expédie une lettre d'amour à son adresse. Madame Rosalinde Fornarine, Villa des Palmes Rouges, Route des Pirates, à Caracas. Les grenouilles. Il y a une poésie de la distance qui arrose de plausibilité les événements les plus anormaux. À mesure que le consul américain parlait, sa face se colorait d'un gentil rouge verni, comparable à ceux des bigarreaux au mois de mai dans le département du Var. Sa grande bedaine pleine de whisky et de suif, parée d'un gilet paille à boutons de nacre bleu, se roulait et se gonflait à l'aise dans le sobre fauteuil de bambou noir sculpté à l'époque des cinq dynasties par un étroit artisan aux doigts fins et aux joues maigres. Il ponctuait ses phrases d'amples gestes, de sa main forte et belle, pleine de bagues et de pierres de toutes les couleurs du drapeau de l'Union. De temps en temps, il s'interrompait pour une digression d'ordre yankee ou parce qu'un rayon de soleil venait se poser sur le sexe d'une potiche incongrue ou par suite d'une exigence de la digestion ou pour embrasser Ludmila dans le cou au point d'intersection des lignes de la nuque et de sa gorge. Boris vida son verre de curaçao et se mit à ouvrir la serviette de cuir repoussée de personnages bolcheviques dessinés par un artiste de canton, ce qui donnait à Lénine la bouffissure et les traits gras d'un Bouddha. De sa main aux doigts affinés et blanchis par l'ambiance de la musique slave agissant à la façon des bains, il prit une des feuilles de papier timbré au nom du commissaire Ouliapine et la tendit à Nicolas. Leurs deux belles têtes, ornées d'oreilles roses et de sensibilité, se penchèrent ensemble sur l'ordre d'exécution en blanc. Des yeux troubles de Boris émanaient une tentation épaisse qui prenait la teinte de ses prunelles laiteuses et la double courbure de ses sourcils. Une jalousie inépuisable lui venait, mêlée dans une proportion conforme aux lois de l'atavisme, d'une sensualité équivoque et d'un goût de sang. Ils épelaient, leurs mains posées côte à côte sur le papier mortel. République russe des soviets, au nom du comité central des soviets, il est ordonné à... Point de suspension. De procéder à l'exécution de... Point de suspension. Fait au quartier général des armées de Sibérie le... Point de suspension. Le commissaire aux armées, Ouliapine. La maison de volupté était située dans le quartier du port afin que les plus fines débauches fussent toujours saupoudrées de cette grosse odeur de goudron avarié et de jonc pourri qui flatte les organes génitaux des femmes. Par la baie en losange aux vitres jaunes gueulées de dragons noirs, entraient des clartés profuses imbibées de sel et de charbon. Des voix anglaises aux inflexions suaves ou brésiliennes, aux éclats sensuels, et aussi des senteurs délétères de pastèques corrompues et de vierges à l'agonie. Tout le Shanghai chinois mûrissait dans la plaine marécageuse comme une orange sanguine piquée de clous de girofle et mordue à l'heure du désir par les dents malsaines d'une courtisane peinte. Ça et là, une pagode pointait ses tourelles obèses, au milieu de maisons pansues accroupies au hasard dans la vase jaune. Au loin, vers l'ouest, la ville anglaise, dépôts, magasins, docks, boutiques, entre de grands rectangles de murs blancs. Plus loin encore, l'embouchure du Yangtze-Kiang, pareil à une langue rose entre les lèvres de la mer. Tout à coup, Boris se décida. À ce moment, ce jeune garçon hybride, nourri de littérature européenne et de sang peut-être mongol, sentit affleurer à la surface de sa peau l'âme de son arrière-grand-père, qui trafiquait des selles en cuir et des icônes en fer dans une isba de planches au bord de la Volga. Quelqu'un lui toucha le cœur avec une main froide. Peut-être cette grand-mère neurasthénique qui fit à pied 120 verstes à l'époque du nihilisme pour voir l'exécution d'un beau général adultère. Par bandes, des aïeux apoplectiques ou pâles se levèrent devant ses yeux, des paysans de terre ablée en bottes fourrées de renard bleu, des soldats de la campagne de France, une lance translucide dans le squelette de leurs poings, peut-être un ou deux popes barbus en robe bénite et ce trisaïeul sadique qui égorgea par manie toutes les chattes du village et cette fine jeune fille très lointaine en bonnet de lin brodé d'or qui fut aimée par un comte russe. Nicolas regardait Ludmila alanguie dans les phrases du consul américain. Boris rapidement, avec la plume d'oie à monture d'or, ravi à l'aile d'un volatile de Nuremberg ou de Castelnaudary par un homme blanc sans ascendance trouble, compléta le papier soviétique à l'exécution de William Simpson, se faisant passer pour consul américain, coupable de malveillance, intrigue et complot contre la République russe des soviets. Voilà, nous avons terminé donc pour ce soir la lecture de ce roman de Joseph Delteil sur le fleuve Amour que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.